Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Philosophie au présent, l'émission du Collège international de philosophie. Bienvenue à nos auditeurs de Radio Aligre. Un petit déplacement d'horaire aujourd'hui, bah oui, on est fatigué, hein, et puis c'est comme ça, on a trop de travail. Bon, bienvenue dans cette émission donc qui continue sur le rapport que nous entretenons. Isabelle Raviolo, bonjour Isabelle, qui est avec
bonjour
nous.
Bonjour voilà. Nathalie, bonjour à tous.
Voilà, le rapport que nous entretenons avec le cinéma, et cette semaine, c'est avec Clint Eastwood que nous vous proposons de faire un petit voyage cinématographique. On a choisi deux films, je vais commencer moi par Mystic River, et puis Isabelle, tu as choisi...
Million Dollars Baby.
Ouais, Million Dollars Baby, magnifique film. Alors, Mystic River a été projeté en 2004 en France. Eastwood l'a tourné en 2003. Et bon, commençons un petit peu par ce qu'en dit Jacques Rancière dans un cahier du cinéma, dans un des cahiers du cinéma qui a paru en mai 2004. Jacques Rancière écrit un article qui s'appelle « Les nouvelles fictions du mal ». Il écrit autour de trois films. « Elephant » de Gus Van Sant, « Mystic River » donc de Clint Eastwood et « Dogville ». Voilà. Et alors, ce qu'il dit, c'est très intéressant, ça va être un peu notre ligne de départ. Voilà ce qu'écrit Jacques Rancière. Le mal se porte bien. À l'ombre de la grande mise en scène bushiste, de Bush, de la lutte contre l'axe du même nom, nombre de fictions s'attachent aujourd'hui à mettre en scène l'envers de la croisade, la façon dont cette Amérique, qui pourchasse les fauteurs de mort sur toute la surface du globe, les retrouve à domicile, au cœur de larges avenues plantées d'érables et des lycées modernes conviviaux de l'Amérique profonde, sous la figure de citoyens honorables ou d'adolescents semblables à tous autres. Et Jacques Rancière fait une différence, et là je fais une différence entre, voilà, le mal et la violence. Hein. La violence, dit-il, elle se laisse apprivoiser, elle peut se laisser lire, hein. elle a des causes, il y a des causes de la violence, et il y a même, classiquement, là il fait une référence à Jean-Paul Sartre, une violence nécessaire, la violence de la lutte, par exemple, contre la ségrégation, contre le racisme. Or, le mal, le propre du mal, poursuit Rancière, est en effet de ne prêter à réparation, de se prêter à réparation, qu'au prix d'un autre mal qui reste irréductible. Et il souligne le trait commun à ces trois films, dont fait partie Mystic River, qui parle du mal en général et du mal américain en particulier. Dogville, Mystic River et Elephant, dans ces films-là, la loi est radicalement absente, par exemple dans Elephant. Ou alors, la loi est complice du mal, hein, elle désigne la victime à faire souffrir et laisse aux bandits le soin de punir les tortionnaires, c'est Dogville. Ou alors, elle laisse impuni le crime de l'honnête père de famille, truand justicier, c'est Mystic River. Alors, pour évoquer un petit peu Mystic River et le déroulement de ce film, j'ai choisi un petit peu de le lire selon la question de la tragédie. Bon, je crois que... Alors ça, Rancière n'en parle pas dans son article, je suis un petit peu étonnée, mais il insiste effectivement sur le côté de l'absence de loi et finalement du tortionnaire qui ne sera pas puni. Mais je crois que ce qui est très fort, en fait, dans Mystic River, c'est vraiment la dimension tragique. Moi, c'est ce qui m'avait... marqué il y a quelques années quand j'avais vu pour la première fois le film. Alors, si on regarde un petit peu historiquement ce qu'est la tragédie, la structure de la tragédie classique, c'est trois temps. Hein, l'exposition, qui doit contenir les semences de tout ce qui doit arriver, hein, nous dit Corneille, par exemple, tant pour l'action principale que pour les épisodiques. Et dans cette exposition, il y a une connaissance d'avec les lieux, les personnages, l'époque, l'intrigue. Deuxième moment de la tragédie, le nœud. Le nœud dans la tragédie, c'est à ce moment où est exposée la nature du conflit à résoudre. Un problème complexe, avec l'idée d'affronter des obstacles. Et puis, additionner à cette nature du conflit toutes les péripéties, les événements imprévus qui vont modifier le cours de l'action et qui conduisent au dénouement. Et enfin, le dénouement, troisième moment de la tragédie, la résolution des problèmes, du problème exposé dans le nœud de la pièce, qui est, et dans la tragédie, c'est un dénouement malheureux. Alors, tout le monde a aussi un petit peu en tête cette définition de la tragédie, bon, qui est une mise en scène de héros ou de personnages de haut rang en vue d'émouvoir et d'instruire le spectateur. Alors c'est vrai que dans Mystic River, je viens à l'instant dans l'exposition de l'histoire, on pourrait se demander, mais bon, il ne s'agit pas vraiment de héros ou de personnages de haut rang, et pourtant, quand on verra dans le dénouement, qu'il y a comme ça un rappel par Eastwood à travers la voix de Sean Penn, de personnages un peu hors du commun. Bon, un roi. Bon. Alors, quelle est la fonction de la tragédie ? Bon, on le sait depuis Aristote, c'est la catharsis, hein, c'est-à-dire ce double sentiment de terreur, de peur et de pitié qui permet au spectateur de se libérer de ses propres passions, ou de se purger de ses passions. Hein. Il y a un côté médical de l'art tragique. Il y a aussi une fonction morale, pardon, de la tragédie. Et puis, c'est aussi faire réfléchir sur la condition humaine, qui a une valeur exemplaire, hein, à travers la tragédie. Il s'agit d'instruire les spectateurs, nous dit Racine. Et puis enfin, la finalité esthétique, par exemple pour Corneille, Racine encore ou Boileau, c'est-à-dire plaire et toucher à travers la tragédie. Alors, je reviendrai sur la manière dont Eastwood traite la tragédie, et j'en viens à l'instant à proprement parler à ce film. Alors, Mystic River est l'adaptation d'un roman policier de Denis Lahane, L-A-H-A-N-E, qui a paru en 2001 et qui sera donc réalisé, je vous le disais à l'instant, par Clint Eastwood en 2003. Ce film a remporté le César du meilleur film étranger, en France donc, et deux Oscars, le meilleur acteur pour Sean Penn et le meilleur acteur dans un second rôle, Tim Robbins. Alors, il faut reprendre un petit peu ce partage tragique qu'on nommait à l'instant, et un petit peu reprendre cette idée d'exposition, de nœud et de dénouement. Parce qu'il s'agit vraiment d'un film, et je crois que, bon, c'est pas pour rien que Eastwood peut être considéré comme le dernier des cinéastes classiques, hein, dans la lignée de Ford, de Hawks, entre autres, hein, qu'il admirait. Eastwood est le seul aujourd'hui, on peut le dire, je crois, à savoir raconter des histoires. Et des histoires particulièrement complexes, qui sont d'ailleurs, et si on s'amuse un petit peu à essayer de raconter l'histoire de Mystic River, on n'a pas fini d'écrire. Alors, comment commence cette histoire ? D'ailleurs, dont il faut dire, hein, que l'histoire est toujours première chez Eastwood. C'est à partir de l'histoire que la construction du film en tant que plan, hein, en tant que séquence, naît. Hein. C'est l'histoire qui amène les plans. Les plans ne sont pas prépensés par rapport à l'histoire. Donc, l'histoire racontée par le film, le premier plan du film, c'est finalement un plan qui a à voir avec le passé. Bon. Le premier plan du film, c'est la rivière, la Mystic, hein, Mystic River. C'est une des deux rivières qui entourent la ville de Boston aux États-Unis. Donc, grand plan, large, sur la rivière, sur un pont, puis resserrement dans un quartier entre deux hommes qui discutent, sur leur balcon. Et qui parle, de manière anecdotique, mais qui montre une importance aussi pour eux. Ils parlent du football, bon, les résultats du football américain, etc. Trois enfants, donc voilà, hein, on passe d'un plan large à un plan resserré. Trois enfants et qui sont amis de 11 ans jouent au baseball dans la rue, hein, juste à côté de ces deux hommes qui discutaient. Ils perdent leur balle dans l'égout en jouant au baseball, ils font tomber la balle dans l'égout, et Jimmy, le meneur, hein, des trois, le petit enfant, il y a Jimmy, Sean et Dave, Jimmy, le meneur des trois, qui a une forte tête, hein, décide alors d'inscrire un petit peu leur nom, un petit peu dans une sorte de provocation, d'inscrire leur nom dans le ciment frais d'un trottoir en réfection. Jimmy, puis Sean, inscrivent leur nom, et Dave commence à le faire. Au moment où deux hommes qui se font passer pour des policiers, ça on le sent petit à petit, hein, au départ on croit comme les enfants que ce sont deux policiers, deux hommes arrivent, se font passer pour des policiers qui sermonnent et intimident les enfants. Jimmy et Sean habitant dans la rue même, ou très à proximité, les policiers ne peuvent pas les embarquer. On sent qu'il y a une espèce de peur. Hein. Les faux policiers ont un peu peur de cette proximité dans le quartier. Mais interrogeant Dave, qui habite lui beaucoup plus loin que ses deux amis, les deux policiers, voilà, sous le prétexte de l'emmener le sermonner, de l'emmener face à sa mère pour le sermonner, le prennent, l'enlèvent et l'embarquent. Dave sera donc séquestré 4 jours et finira par s'échapper. Alors, y a là, dans le départ, hein, dans cette exposition du film Mystic River, il y a là quelque chose de très touchant. Bon, Dave n'a pas pu finir d'écrire son nom dans le ciment frais de ce trottoir en réfection. Hein, il a écrit les 2 premières lettres. Alors, c'est déjà très parlant. S'il n'a pas fini d'écrire son nom, c'est parce qu'il a été enlevé et va être séquestré et probablement violé. En tout cas, c'est ce qui est sous-jacent et dans le roman et Eastwood le garde dans le film. Mais cette absence d'écriture du prénom total de Dave, c'est aussi la disparition de sa propre identité. Et ça va revenir au cours du film. Finalement, en étant enlevé, Dave est mort. Il est mort à lui-même. Et le fait qu'il n'ait pas pu finir d'écrire son nom, c'est aussi voilà, le signe ou la métaphore d'une mort partielle de Dave, hein, qui ne reviendra plus jamais comme il était à la suite de cette séquestration. Alors il y a aussi un plan qui est très très parlant hein, dans ce début de l'exposition, le plan où Dave est embarqué dans la voiture, hein, tout ça avec une immense douceur. Hein, le mal peut s'exprimer à travers une espèce non pas de bonhomie mais de douceur. Il n'y a pas besoin d'être violent avec lui. Il se laisse embarquer parce qu'il y a la force de cette loi, hein, de cette fausse loi, de cette fausse justice, de ces faux policiers. Mais il est embarqué et il y a ce plan magnifique de la voiture où Dave regarde ses deux amis rester sur la route et lui s'embarque vers un destin absolument tragique, vers un trauma, hein, un traumatisme qui va engendrer toute l'histoire hein, de Dave qui se terminera de manière terrible. Autre chose très intéressante et qu'on retrouvera peut-être aussi dans Million Dollar Baby, un des faux policiers qui enlève Dave porte une bague, hein, et Eastwood fait en sorte de bien nous la montrer, porte une bague avec une croix. Hein. Il y a comme ça un rappel, toujours symbolique avec Eastwood, de ces faux croyants, de ces faux religieux hein, qui, sous le couvert d'une bonne apparence de croyants, peuvent faire des actes absolument horribles. Il y a dans cette exposition, en termes de réalisation, toute une pudeur d'Eastwood hein, qui ne montre aucune scène choquante, mais qui reste toujours dans la suggestion. Hein, il n'y a pas de scène de viol, bien que le viol soit latent, hein, reste latent. On sent bien qu'il s'est passé quelque chose de très grave avec Dave, mais aucune scène crue. Hein, tout est dans la suggestion, tout est en suspens, et d'ailleurs tout au long du film. Il ne s'agit pas de représenter, mais il y faut effectivement de la retenue, et c'est la caméra d'Eastwood qui montre cette retenue. Alors, le nœud de l'histoire va se passer 25 ans plus tard. Il y a un deuxième démarrage. Hein, là, nous étions dans le passé, dans ce moment d'exposition, le passé autour de l'année 1975. Et on retrouve les personnages, Jimmy, Sean et Dave, 25 ans plus tard. Et le second moment de ce film, le nœud de l'histoire, commence avec Dave, précisément. Hein, on l'apprend, on le devine, qui rentre de l'école avec son fils et qui l'encourage pour le baseball. On apprend d'ailleurs que Dave était très bon au baseball. Alors, là encore, pédagogie intelligente et fine d'Eastwood, hein, qui établit le passage du passé au présent sans insert, hein, et pas besoin d'écrire quoi que ce soit sur l'écran, mais qui, par la seule puissance de la narration et des dialogues, hein, nous montre ce passage du passé au présent. Évidemment, là, on peut retrouver un geste un geste de Hitchcock, hein, qui disait toujours ne pas prendre le spectateur pour un idiot, hein, parier sur son intelligence et parier aussi sur la pédagogie cinématographique. C'est par le cinéma qu'on fait saisir au spectateur ce qui se passe dans l'histoire. Pas besoin d'en rajouter. Bon. Et alors, donc ce plan avec Dave, qui commence par Dave, on, petit à petit, Eastwood amène les deux autres amis, donc Jimmy et Sean, qui vont se croiser, hein, au cours de cette histoire. Jimmy est devenu commerçant, bon, hein, le petit rebelle, hein, celui qui a voulu inscrire les noms dans le ciment. Sean est devenu un policier, et donc Dave, père de famille, essentiellement. Ce qui fait que les trois amis vont de nouveau se rencontrer alors qu'ils ont été séparés par leurs existences et certainement par ce trauma, hein, par cet enlèvement de Dave, c'est le meurtre de la fille de Jimmy, la fille qui s'appelle Cathy. Donc, il y a là, dans cette partie du nœud de l'histoire, tout un suspense mis en place par Eastwood, jusqu'à cette découverte tragique de la mort de Cathy. Un suspense, voilà, où petit à petit la tension monte entre plusieurs personnages qui se mettent en place, notamment le fait aussi que Dave semble avoir une double vie, une vie de justicier, hein, on l'apprend au cours du film. Dave essaie de sauver des enfants victimes de pédophilie, donc il y a déjà une double histoire qui se met en place. Et déjà dans ce nœud, en tout cas, ce qui semble très important, c'est l'apparition du destin ou de Dieu. Voilà, c'est au moment de la découverte du corps de Cathy, la fille de Jimmy. Les paroles que prononce son ancien ami Sean, devenu policier, qui a donc découvert le corps, hein, qui s'aperçoit que c'est la fille de Jimmy et qui prononce cette phrase mystérieuse, hein, puisqu'on est quand même encore au début du film. « Hey Jimmy, Dieu a dit que tu avais une dette envers lui, il a réclamé son dû. » Alors, quelle dette? Ça, on va le découvrir. Celle de ne pas être monté dans la voiture, à la place de Dave, hein, c'est ce qui va courir aussi. Celle, ça on l'apprend plus tard, cette dette d'avoir tué et d'avoir engendré, par une succession de micro-événements, l'assassinat de sa fille. C'est donc la suite du film qui nous apprend tout ça, qui nous apprend qu'effectivement, Jimmy a commis un crime, et que peut-être, voilà, ce crime a entraîné finalement la mort de sa propre fille. Bon, là, il y a dans cette découverte du corps, hein, dans un parc, il y a effectivement la manière de placer la caméra d'Eastwood, qui est par elle-même très suggestive. On retrouvera ça dans Million Dollar Baby, d'ailleurs. Lorsque Sean découvre le corps de Cathy, voilà, les plans en plongée et en contre-plongée. Hein. Alors, la plongée, ce serait un plan du dessus, Dieu qui regarde les hommes se débattre. Hein. On retrouve ça, hein, même au cours du film également et dans Million Dollar Baby, mais un Dieu qui est hors du monde des hommes, hein, qui les regarde, voilà, faire ce qu'ils ont à faire dans une tragédie sans fin. Et puis la contre-plongée, au contraire, dans le monde humain, empêtrer, hein, ce monde humain dans ce sublunaire, pour reprendre le terme d'Aristote, hein, qu'il contribue par ses actions à assombrir. La contre-plongée, c'est aussi le point de vue de la Terre, hein, la Terre qui porte les cadavres. Alors là, le cadavre est retrouvé dans un parc, mais la Mystique, c'est une rivière, et c'est aussi, voilà, c'est cette terre, hein, qui lave le péché des hommes. Bon. Mais encore, cette contre-plongée, c'est toute l'animalité de l'homme, d'un homme violent, d'un homme sauvage, très terre à terre, hein, c'est-à-dire occupé par des tâches les plus basses, par exemple comme la vengeance, faire justice soi-même, etc. Alors il y a dans ce nœud, hein, il y a deux autres moments de destin, d'apparition du destin. Jimmy, par exemple, qui répond aux questions de Sean, et joué par Kevin Bacon, et de son acolyte, et qui évoque le trauma de Dave. Et voilà ce que dit Jimmy. Si j'étais allée à sa place, à la place de Dave, il n'y aurait pas eu de mariage avec ma première femme. Et donc, Cathy ne serait pas née. Et donc, elle ne serait pas morte. Donc, on a là encore un deuxième point de cette vie-destin qui ne tient qu'à un fil, à une pulsion, à une pulsation, soit à une passivité, soit à une activité. Et que tout cela entraîne finalement des conséquences presque irrémédiable, sans que les hommes le veuillent vraiment, hein, ou alors pensant avoir leur libre arbitre, ils sont finalement le produit de quelque chose. Bon, il y a l'énigme également, troisième moment de ce destin, l'énigme de ce meurtre pour Jimmy, hein, Jimmy qui est devant le corps de sa fille, et qui regarde sa fille morte, qui regarde ce corps mort, et la phrase qu'il prononce, je sais dans mon cœur que j'ai contribué à ta mort, mais je ne sais pas comment. Cette phrase fait donc, est donc une réponse, hein, de la première phrase prononcée par Sean. Et Jimmy, Dieu a dit que tu avais une dette envers lui, il a réclamé son dû. Et Jimmy sent, pressent qu'il est peut-être l'auteur, sans le savoir, de la mort de sa fille. Alors je vous le disais, l'histoire, hein, dans ce nœud qui est important, hein, qui constitue peut-être pas presque les trois quarts du film, qui dure très longtemps, qui dure plus de 2 heures, c'est là le grand bonheur de voir des films d'Eastwood, c'est que l'histoire prend son temps et qu'on n'est pas dans un cadrage minuté comme on sait mal le faire maintenant, où les histoires vont très vite et où rien n'est installé. Là, il y a vraiment un temps chez Eastwood. Et dans ce moment du nœud, hein, de la nature du meurtre, il y a parallèlement l'histoire de Dave et de son propre meurtre, hein, qui donc, je vous le disais, est un justicier de la nuit, Dave, qui s'attaque aux pédophiles et à tous ces hommes qui contribuent à la prostitution des enfants. Dave, finalement, se fait lui aussi vengeur, hein, de ce qu'il a subi dans son enfance. Bon. Et Dave ment à sa femme. Hein. Dave rentre un soir après un meurtre commis, et il ment à sa femme en lui disant que tout le sang dont il est couvert est le fruit d'une bagarre. Donc le mensonge se fait aussi partie du nœud de cette histoire, et Eastwood montre comment il est une manière d'orienter l'existence et donc de produire d'autres conséquences. Finalement, si Dave n'avait pas menti mais a avoué la vérité à sa femme n'aurait pas eu de soupçons. Et ne s'en serait pas ouvert à Jimmy, et n'aurait donc pas déclenché la vengeance de Jimmy et le meurtre final de Dave. Bon, donc il y a comme ça, au cours de cette histoire, tout un tas de mensonges successifs qui fait que les hommes ne s'avouant pas ou ne disant pas la vérité contre-produisent contre-produisent une histoire qui aurait pu être beaucoup plus clair et beaucoup plus simple, et finalement imprime un autre destin. Voilà, il y a dans ce moment du meurtre, je vous le disais, un suspense qui est mis en place, parce qu'il y a une espèce de course contre la montre entre d'un côté l'enquête policière et la vengeance qui va être mise en place par Jimmy, accompagné des fameux frères Savage, hein, qui sont des amis de longue date avec lesquels il a commis quelques braquages. Bon. Une course contre la montre de Sean et de son acolyte, qui est donc joué par Lawrence Fishburne, et petit à petit va se dessiner donc l'entremêlement d'histoires au pluriel, hein, de causes au pluriel, qui ont conduit au meurtre de Cathy. L'arme du meurtre de Cathy est en effet l'arme du vol à main armée que Jimmy a commis avec son ancien ami Ray Harris, hein, il y a 15 ans en avant. Et ce dernier, Ray Harris, qui a d'ailleurs mystérieusement disparu. Et on apprend au cours de l'histoire que Jimmy l'a en fait tué et a fait croire à sa disparition, à sa seule disparition, en envoyant de l'argent à sa femme chaque mois depuis sa mort. Donc il y a là un entremêlement des histoires, de l'enquête et d'une course contre la montre entre la justice légale, hein, celle qu'impriment les policiers, que veulent imprimer les policiers, et la vengeance, hein, la vengeance auquel à laquelle se veut se dédier Jimmy, qui a été vraiment touché dans sa chair. Donc il y a, si on, bon alors il faudrait effectivement rentrer dans les détails davantage de ce film qui est ô combien complexe et subtil. Mais ce qui va se passer et qui va finalement arriver au dénouement, c'est que Céleste, la femme de Dave, fait part de ses doutes sur son mari. Hein. Finalement, elle même quand Dave essaie de lui dire que finalement il est un vengeur, hein, il se venge la nuit et qu'il tue des pédophiles, ou en tout cas il essaie d'empêcher que des actes de pédophilie soient commis sur des enfants, Céleste ne le croit pas, elle ne croit pas son mari. Et elle se confie à Jimmy, hein, elle confie ses doutes à Jimmy, qui lui demande « Tu crois que Dave a tué ma Cathy ?» Et en répondant oui, finalement, Céleste déclenche la vengeance par Jimmy. Une vengeance qui n'est pas de gaieté de cœur par Jimmy. Voilà, parce que elle va se produire sur son ancien ami et que ça engage quelque chose en lui de très fort. Bon. Et voilà, le dénouement de l'histoire, c'est vraiment ce traquenard, un traquenard doux. Hein. Voilà, c'est de nouveau un enlèvement très doux. Il y a un plan magnifique de Dave qui est embarqué par les frères Savage, hein, qui vont le conduire dans un café. Donc, plan à l'arrière de la voiture pour rappeler un petit peu ce trauma qu'a subi Dave, qui est de nouveau enlevé, voilà, à l'arrière de la voiture et qui regarde comme quand il était enfant. Donc l'injustice se reproduit dans ce dénouement, sous l'idée du faux coupable, hein, bon, qui est une idée beaucoup plus classique, empruntée à Hitchcock, entre autres. Voilà, mais c'est aussi finalement... la reproduction d'une injustice, la reproduction d'un faux coupable. Bon, les enfants, au départ, avaient tous fait cette petite bêtise d'inscrire leur nom dans un ciment frais sur un trottoir. Mais seul Dave a été embarqué et a fait l'objet d'une punition de la part de ces faux flics. Donc il y a là, comme ça, un rappel voilà, de ce faux coupable qu'est Dave et qui, de nouveau... Et va faire l'objet d'une injustice. Il y a là dans ce dénouement final de même un plan du ciel sur le bar où est emmené Dave. Bon, là encore, Dieu regarde les hommes se débattre, et d'ailleurs Jimmy va faire appel à Dieu, hein. Dieu a déjà vu ce qu'il a fait près de la Mystique, puisque c'est là que Jimmy, quelques années auparavant, a tué son ancien ami Ray Harris. Et il y a là dans le dénouement, un sublime montage en parallèle, hein, haletant entre deux scènes, deux formes de justice, hein, la vengeance, celle de Jimmy face à Dave, et puis celle de Brendan Harris, le petit ami de Cathy, qui a deviné, hein, que ceux qui avaient tué sa petite amie avec laquelle il devait partir, Cathy, il devait se marier, etc., il a deviné que c'était son frère et son copain qui ont tué Cathy avec l'arme de leur père. Et d'ailleurs, à souligner, hein, ce crime est sans mobile, hein, c'est un jeu, tout simplement le jeu avec une arme, puis l'engrenage de la poursuite dans le parc qui a fait que Cathy est morte. Donc mort absurde, voilà, dont la cause est cette arme qui traînait, hein, qui avait une histoire et qui traînait dans la maisonnée. Il y a donc là dans ce dénouement final... voilà, tout un jeu entre cette idée de mystique, hein, Mystic River. Donc, qu'est-ce que c'est que la mystique? C'est, bon, ce qui a trait à un mystère, aux choses cachées. Or, effectivement, Jimmy a des choses, cache des choses, hein, et la rivière est le lieu où les choses se découvrent, où le mystère se découvre. Et puis, Mystic River, bon, parce que mystique veut dire donc aussi mystère, c'est un enseignement, enfin, cette rivière enseigne. Bon, ce qui est mystique, c'est ce qui initie. Bon, et les hommes sont initiés à quoi finalement? À cette démesure, hein, pour reprendre le mot grec, à cette hubris, à cet orgueil de la part, par exemple, d'un mortel, hein, de Jimmy, hein, qui finalement montre un peu une supériorité insolente. Hein, il se croit au-dessus des lois et du coup, il en est puni de manière tragique. La mort de sa fille, il doit quelque chose. Hein, il doit quelque chose aux hommes puisqu'il s'est extrait de la loi des hommes. Et l'hubris, on le sait avec les Grecs, n'est jamais séparée de la Némésis, hein, qui est cette déesse qui punit tout individu qui échappe à la loi commune. Hein. C'est une punition de la faute, hein, c'est une forme de justice immanente de l'homme qui est allé contre le sacré. Il y a donc, je crois, et c'est la force de Mystic River, il y a donc... La question du destin. Les hommes croient agir librement, mais sont en fait le produit d'un destin, mais un destin dont ils sont les organisateurs. Ce que montre Eastwood, et il l'a montré dans d'autres films par ailleurs, c'est moins ce qui nous agit sans qu'on le sache que ce que l'on déclenche par nos actes, c'est-à-dire une sorte d'enchevêtrement, d'enchaînement de conséquences désastreuses sur les existences. Dans la question du destin chez Eastwood, il y a une responsabilité des actes qui sont commis. Ainsi, Jimmy paye l'assassinat de son ancien complice par la mort de sa fille, tuée par l'arme de son ancien complice. Mais il y a aussi, je vous le disais avec le personnage de Dave, hein, la question d'une blessure initiale, hein, d'un trauma, hein, d'un viol, d'un abus, qui n'est pas seulement un trauma personnel, physique et psychique, c'est pas seulement personnellement que Dave est touché, sans être celui des deux autres enfants. Le traumatisme est aussi celui des deux autres enfants, puis d'une petite communauté. C'est l'ensemble du quartier qui est touché. Et finalement, ce trauma aide à comprendre, et je vous le disais avec le fait que Dave n'ait pas pu inscrire la totalité de son prénom, aide à comprendre que Dave est mort. Il est déjà mort. Et suite à cet enlèvement, il était déjà mort. Et il va accepter le châtiment de Jimmy. Il va avouer à Jimmy qu'il a tué sa fille alors qu'il n'en est rien. Mais parce que d'une certaine manière, il est mort à lui-même. Il y a là, mais là il faudra encore s'arrêter dans la scène finale, hein, toute une opposition entre Jimmy, voilà, qui est dans la vengeance, hein, qui veut faire avouer, hein, l'aveu sous la pression. Effectivement, le travail de la justice, mais d'une justice impuissante que représentent Sean et son complice. Voilà, j'en termine là. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je propose que là, on écoute un petit extrait de cette musique composée par Eastwood, musique dont on sait, hein, Eastwood faisait très attention à la composition de ses musiques. Et la musique, pour lui, c'est tout simplement des touches. Hein, il ne s'agit pas qu'il y en ait trop. Il s'agit simplement qu'elles viennent ponctuer les événements et qu'elles donnent un rythme, mais un rythme tout en douceur. À l'image, on écoute cette musique de Mystic River.
Merci Nathalie pour cette présentation de Mystic River de Clint Eastwood.
Et nous venons d'écouter la musique composée par Eastwood. Voilà.
Et quant à moi, je vais vous présenter Million Dollars Baby. C'est un film postérieur à Mystic River avec Morgan Freeman, Hilary Swank et Clint Eastwood, qui est adapté d'une nouvelle de Toole, La fille à 1 million de dollars, une nouvelle parue dans La brûlure des cordes chez Albin Michel en 2002. Alors, mon propos sera de dire que ce film est un film sur l'amour, les fêlures humaines, les blessures de la vie et le courage d'exister. Et c'est vraiment un film qui, en tant que élégie sèche et crépusculaire, où le lyrisme semble produire la pensée qui le fonde, nous parle de l'existence des hommes, de la force qu'on trouve en soi et en l'autre, d'aller jusqu'au bout de ses rêves, de s'accomplir, d'aimer vivre par-delà toutes nos blessures et nos angoisses. Alors, je rappelle l'histoire, c'est Frank Kiddon, l'entraîneur au placard, qui gère sa salle de boxe avec Scrap, son ancien poulain. Et puis lorsqu'apparaît une jeune femme de 31 ans, Maggie Fitzgerald, avec sa détermination, avec sa rage d'y arriver, et qui va combler un vide qui creuse jour après jour la vie de Frankie, un vide qui est celui que sa fille a laissé, sa fille dont il n'a plus de nouvelles. Et cette relation trouble qui va rapprocher Maggie et Frankie par leurs blessures intimes, les blessures d'un corps, les blessures d'un cœur aussi, on verra que c'est lié, c'est cette rencontre, cette relation qui va en quelque sorte constituer le fil rouge du film. Et c'est pour ça que mon propos sera de dire que Million Dollars Baby, c'est un film qui parle d'amour, un amour décliné sous plusieurs facettes, un amour à la fois sacré, profane, puisque c'est un film aussi qui parle de l'amour de Dieu, de la prière, on y reviendra. C'est aussi l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour amical, autant de manières de dire l'amour, où finalement le film plonge sans cesse à vif dans le cœur des hommes et met à jour des douleurs cachées, des douleurs secrètes, des non-dits et des silences, où on voit que ces blessures qui travaillent le fond de l'homme, elles vont toutes ressortir dans l'espace-temps du ring. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tout le film va se tenir sous le regard d'un alter ego, Scrap, tout à la fois U2K1 et voix intérieure, celui qui dit et qui sait, celui qui parfois même infléchit le destin pour en faire une vie. Et au fond, dans ce film, si le monde de la boxe sert de toile de fond au drame humain, c'est pas vraiment la boxe qui est le centre de ce long métrage de 2 heures, mais c'est un prétexte qui va servir à parler de ces 2 thèmes principaux dont sur lesquels je vais construire le propos, puisque tout s'articule autour de cette manière de vivre l'amour, de le chercher et de combattre tout ce qui a pu nous blesser, toutes ces blessures de l'amour, des amours manquants, des amours qui ont été détruites. Et c'est avec beaucoup de tendresse que le réalisateur filme des personnages toujours au bord de l'abîme, qui un jour, finalement, lâche la bride pour se perdre dans un élan du cœur. Des personnages qui sont maladroits, vulnérables, qui ne savent pas dire l'amour, ou qui le disent à mi-mot dans toute la pudeur caractéristique de l'œuvre de Clint Eastwood. Et puis aussi des personnages qui, par le biais de la rencontre et de la grâce de la rencontre, vont fouiller des non-dits pour atteindre au plus intime de leur être. Alors, c'est vrai que Frankie et Maggie, c'est l'histoire d'une rencontre, l'histoire d'un amour qui transcende les peurs, amour filial, amour amical. C'est un amour qui, quelque part au milieu de nulle part, puisque contrairement à Mystic River, on est un peu dans un hors important est un hors-champ dans ce film. Hors-champ, j'entends par là que l'espace, s'il est américain, n'est pas réellement déterminé, hein. C'est un film qui est tout entier travaillé par atemporalité, aspatialité, qui en fait presque une poésie, un conte, qui convoque d'ailleurs le poète constamment Yeats, hein, en toile de fond. Ce poète qui se retrouve ce mot gravé au dos du peignoir de Maggie, hein, mot Kuschel, qui veut dire en gaélique ma chérie, mon sang, mon amour, justement. Et cet amour dont Yeats disait dans 40 poèmes suivis de Résurrection aux éditions Gallimard, « Avec tout mon amour, je le mettrai à tes pieds. Mais tu sais, je suis pauvre et je n'ai que mes rêves. J'ai déposé mes rêves sous tes pieds. Marche doucement, car tu marches sur mes rêves. » Et ces vers de Yeats font écho à deux éléments importants du scénario adapté de la nouvelle dont je vous parlais, la nouvelle de Toul, la voix off dit « Certaines blessures sont trop profondes, trop près de l'os et on a beau faire, elles ne s'arrêtent jamais de saigner. » Ou encore « Les trous dans les chaussettes » dont parle Francky au début du film. Je te paye pas assez pour t'acheter des chaussettes, hein? Des chaussettes, mais tes chaussettes, elles sont trouées. Ah, mais celles-ci, ce sont celles de la nuit. Les pieds aiment bien respirer la nuit. Alors pourquoi n'en changes-tu pas le jour? Parce que celles du jour sont pleines de trous. En fait, voilà, c'est des personnages plein de trous, des trous dans le cœur, des trous dans le corps, des blessures, qui me fait dire que, au fond, le sujet du film, c'est pas la boxe à proprement parler, mais la condition humaine. La condition humaine, la condition de l'homme, c'est l'amour, hein, la recherche du bonheur, elle est conditionnée par cet amour. Donc la boxe devient un moyen de naître à soi, mais pas une fin en soi, en fait. La recherche profonde, c'est soi-même, comme un autre, c'est-à-dire cette intimité, cette intrication, où l'autre est présent, où l'autre nous parle, où nous entrons dans une prière commune, dans un dialogue intime qui nous constitue. L'amour de Dieu, l'amour d'un frère, l'amour d'une fille et d'un père, tout se croise dans ce mot, mot Kuschel, brodé au dos du peignoir de boxe de Maggie, et au fond, cette caractéristique qui traduit que par-delà nos solitudes irrémédiables, hein, il y a cette force d'exister, ce combat qui est aussi, hein, la philosophie du film, ne pas s'enliser dans ses blessures, ne pas se laisser prendre par elles, mais essayer constamment d'avoir ce courage de sa liberté, de ce courage d'exister pour surmonter ses blessures. Et c'est vrai que si l'amour est présent partout, eh bien il a, hein, son pendant dans la solitude, dans la vieillesse aussi. Hein, Francky est un homme âgé, et cette vieillesse, Yeats s'en parle très bien dans un très beau poème. « Quand un homme vieillit, sa joie se fait chaque jour plus profonde, son cœur vide déborde enfin, mais il lui faut bien cette force, puisque la nuit qui s'accroît ouvre au mystère, à l'effroi. » Ou encore un autre poème, « Quand tu seras bien vieille, quand tu seras bien vieille et grise, dodelinant aux portes du sommeil près du feu, prends ce livre et lis sans te hâter et rêve à la douceur qu'eurent tes yeux jadis dans leurs ombres lourdes. Combien aimaient alors ta grâce joyeuse qu'ils aimaient ta beauté de fin ou vrai amour. Mais un seul homme aima en toi l'âme viatrice et aima les chagrins du visage qui change. Penche-toi donc sur la grille embrasée et dis-toi un peu triste à voix basse, amour. Tu as donc fui, tu as erré sans fin sur la montagne, tu t'es caché dans l'innombrable étoile. Voilà cette âme viatrice, cet amour qui se cache dans l'innombrable étoile, fait dire que la vérité de Maggie, c'est l'amour de la boxe, mais à travers cette boxe, l'amour de la vie. Et cet amour de la vie, il passe toujours chez Eastwood par un combat, par un agir, où l'on surmonte, où l'on ne se laisse pas asservir par tout ce qui pourrait nous entraîner vers le bas et nous désespérer. C'est au fond un film sur la force de la boxe, la force du ring, mais aussi cette force de dépasser, cette force qui est le courage de sa liberté. C'est un film sur le courage. La vertu propre de ce film, c'est celle du courage. Hein? Et Eastwood nous donne une fois de plus sa vision de l'homme ici, dans sa complexité, dans sa finesse. Un homme qui, dans des blessures secrètes, des non-dits, qui pourrait le dévaster, trouve aussi la force de naître, de renaître par sa volonté. Et donc, au fond, c'est un film qui va du dépouillement à la rédemption. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est un film sur l'amour. Parce qu'il a une trajectoire pascale à travers tous ses personnages. Une trajectoire qui passe de la mort pour aller vers la résurrection. Hein, et toutes ces variations de l'amour humain entre le sacré et le profane suivent une dynamique pascale qui sera comme la colonne vertébrale du film, ce fil rouge dont je parlais. Car pour naître à soi, il faut accepter de mourir à ses représentations de soi, de l'autre, du monde, à tout ce que l'on pensait être la vérité. En fond, cet amour n'est jamais dans le film fusionnel, il n'est jamais total, il est toujours manquant. Et il ne s'agit pas de se résigner à ce manque, mais de l'accueillir, d'y consentir. Et c'est là aussi un courage, le courage du réel. Et ce manque nous fait éprouver, au fond, le temps qui passe, hein, ce temps auquel on ne peut pas échapper, ce temps de la mémoire de l'autre, et aussi de nous-mêmes. Alors le sujet du bac de philosophie d'EL, peut-on échapper au temps ? Eh bien on dirait non, on ne peut pas échapper au temps, à la vieillesse. La vieillesse est présente, mais on peut trouver des joies dans la vieillesse, et cette joie qui est éternelle, c'est la joie de l'amour, c'est la joie de la rencontre. Et au fond, trouver le bonheur, ce n'est pas un idéal inatteignable, c'est dans les petites choses qu'on trouve le bonheur, dans ces combats que l'on arrive à vaincre et qui sont des que l'on arrive à mener, ces victoires que l'on arrive à réaliser, et finalement c'est autant de petites victoires sur nous-mêmes. Nous-mêmes, nous restons fondamentalement seuls, mais dans cette solitude, nous avons à combattre contre nos représentations, contre un ego qui nous plombe, et trouver notre ipséité, trouver notre identité, c'est aller au-delà. Et l'autre, finalement, de nous-mêmes, c'est toujours cet autre manquant que nous avons à rechercher. Cette vérité de nous-mêmes qui n'en a jamais fini de se rechercher, de se recueillir, de se concentrer sur tout ce qui pourrait être cette force de la vertu du courage. Donc c'est pourquoi hein, on peut dire que c'est un film où l'amour seul sauve. Et si l'amour sauve, s'il est le moteur de la rédemption des personnages du film d'Eastwood, c'est parce qu'il donne la foi, hein, un désir de vivre et de se dépasser, de se connaître soi-même et d'accomplir sa liberté de sujet. Et au fond, cette quête dans le film, à travers les personnages, elle est incessante, elle n'en finit pas de hanter Frankie, Maggie, Eddie, ces personnages qui dans le film sont taraudés par le désir d'aimer et d'être aimé. Et si nous recherchons tous ce bonheur, eh bien celui-ci n'a de sens que dans l'amour quand il est partagé. C'est dans le partage de cet amour que Frankie et Maggie trouveront le lieu d'une naissance mutuelle. Alors, au fond, quand le film dit qu'il y en a qui disent qu'ils aiment la boxe, ben, ils ne savent pas de quoi ils parlent, puisque la boxe, c'est vraiment une histoire de respect, se faire respecter aux dépens de l'autre. Effectivement, cette histoire de respect que représente la boxe, c'est en réalité une histoire qui traduit la trajectoire des personnages, une histoire où l'amour passe par le respect. C'est pourquoi le film est tout entier scandé par cette quête de l'amour, qui ne passe pas par la fuite du monde et de son corps, mais par l'habitation de son corps, dans sa matérialité, dans le poids de sa chair, de son incarnation, ipso facto par l'habitation du monde et de sa réalité, souvent sordide, souvent violente, décevante, une réalité sociale aussi, la famille de Maggie, hein, qui ne pense qu'à l'argent, qui ne l'aime pas, qui la rejette, qui se moque d'elle. Et au fond, quand Eastwood cherche constamment à protéger Maggie, à protéger ce corps de chair des coups de l'adversaire, c'est fondamentalement parce qu'il reconnaît la vulnérabilité du corps et du cœur. Hein, cette intrication entre le corps et le cœur, entre l'esprit et la matière, eh bien, fait toute la trajectoire de la condition humaine dans ce film, cette condition humaine d'être au monde, d'exister, d'être hors de soi, dans un monde que nous n'avons pas choisi, mais que nous pouvons aussi transformer. Et en fait, on peut dire que cette vulnérabilité qui fait la faiblesse des hommes peut aussi faire leur force. Fragilité, force se croisent. Le corps qui nous oblige à faire attention à lui nous renvoie aussi dans sa mémoire, dans ses blessures, à un passé enfoui, à une enfance. Et dans cette histoire, dont le signe peut être celui d'une cicatrice, le corps nous parle du cœur, de ses blessures qui nous conditionnent, qui nous induisent aussi dans nos décisions, nos aventures, nos recherches. Quelquefois, dit Eddie, la meilleure façon de porter un coup, c'est de reculer. Mais à trop reculer, on finit par ne plus se battre. Donc il faut trouver la bonne distance. Et cette bonne distance est signifiée dans le respect de cet art martial qu'est la boxe. Au fond, du cœur au corps, l'avers et le revers d'une même médaille est ici dessiné. Et c'est donc cette condition incarnée qu'il nous faut lire à travers la trajectoire des personnages dissous, d'issuit, une condition humaine où, si le déterminisme social peut jouer, il ne conditionne pas tout, mais laisse au personnage une force, une part d'action, une part de transformation. Être dans le monde, c'est aussi être au monde, disait déjà Merleau-Ponty dans Phénoménologie de la perception, et c'est par cette intrication, ce chiasme, que l'homme peut accomplir sa liberté. Cette part de la liberté qui oblige à résister, à se dépasser, à ne pas désespérer, c'est la puissance du personnage eastwoodien qui est donnée dans l'espérance, qui elle-même portée par l'amour pleinement reçu et donné, et tout entière conditionnée par notre être vulnérable, notre incarnation, dont le ring est l'analogie de l'espace-temps. On met tout sur le ring, on met ses tripes, on met son âme, on met son corps, on donne tout, comme s'il fallait en passer par ce dépassement pour ne pas rester enfermé en soi, sur soi, dans ses blessures. Alors c'est vrai que, rejeté depuis longtemps par sa fille, l'entraîneur Frank Kiddon ne s'est pas replié sur lui-même, mais il a donné cette force de la rencontre un dépassement à son désert affectif, de même que Maggie Fitzgerald n'est pas restée enfermée dans le désespoir ou dans la condition sociale de sa famille. Et à travers ces deux trajectoires, ces relations blessées, naît une relation, une naissance mutuelle tout à la fois stimulante, puisque à travers la voix d'Outre-Tombe, la voix off d'Eddie, qui commente cette histoire, le film pense dans ce combat de la chair et de l'esprit un match où il y va toujours d'une manière de dire au-delà des mots, ce qui est indicible, comme cette scène finale où Frankie débranche Maggie et lui dit qu'elle ne va pas souffrir, comme cette scène où Frankie discute avec le prêtre et qui n'est pas sans faire penser aussi au film de John Ford, qui est un peu aussi comme la toile de fond très beau film Million Dollars Baby, où toujours la salle de sport devient une salle de combat avec soi, avec l'autre, avec la vie, une salle de rencontre, de naissance et de renaissance, on pourrait dire une véritable matrice où la relation symbolique de père et de fille dit un amour filial qui dépasse toutes les manières un peu caricaturales de voir l'enfance et la vie, qui dépasse cette scène de l'enfance heureuse où Maggie croise dans la station service cette petite fille avec le chien, l'image de l'enfance heureuse comme encadrée qui est proposée là est celle finalement d'un monde privilégié où le combat n'a nulle part, mais c'est peut-être celle aussi d'un monde irréel. Alors je terminerai mon propos par quelques vers de Yeats, des vers que je trouve magnifiques. « Sauve-toi, enfant de l'homme, fuis vers les bois et les eaux sauvages, la main dans celle d'une fée, car le monde est plus empli de pleurs que tu ne peux l'imaginer. » Merci.
Merci beaucoup. Ben voilà, nous avons parlé aujourd'hui d'un cinéaste, Clint Eastwood, cinéaste du clair-obscur. Hein, voilà, ça c'est aussi toute sa manière de faire du cinéma et de toute la part qui représente cinématographiquement la part d'ombre de l'humanité. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt.